grand retour de Nathalie El-Grabli. Comment allez-vous, Madame El-Grabli?
Très bien, Monsieur Moret.
Oh,
depuis
voir.
Quand on se vous voit comme ça?
Ah, ben, c'est bon. Tu vas-tu passer un bel été, Nathalie? Là, l'école achève-tu?
Oui et non. C'est-à-dire, la session d'hiver est terminée. Oui. La session d'été commence la semaine prochaine.
Ah, est-ce que tu enseignes l'été?
Oui.
Ah, OK. Par
moi,
choix, par nécessité?
Oui. Non, par choix. Non, moi, j'aime ça enseigner. J'aime surtout la session d'été. Je la trouve particulièrement agréable, en fait. On voit les étudiants deux fois par semaine au lieu d'une fois. Donc, ça crée une dynamique, un type d'échange qui est beaucoup plus intéressant qu'une fois par semaine.
Merci beaucoup d'être de retour parmi nous en ce vendredi. Et on va te parler à tous les vendredis jusqu'à temps que je parte en vacances. C'est un privilège de te parler, Nathalie. Et ce matin, on parle des retraités. Là, visiblement, il y a un gros dossier qui s'en vient dans le Journal de Québec. J'ai hâte de lire ça demain. Aujourd'hui, bon, on met en vedette une madame qui n'a pas beaucoup gagné d'argent dans sa vie. Donc, évidemment, elle s'assoit sur une retraite du gouvernement. Donc, on n'est pas riche. Mais ce matin, tu t'attardes davantage sur les retraites des employés de l'État, qui ont eu quand même des bonnes augmentations au cours des dernières années.
Ben, en fait, voilà, c'est ça. Et tu vois, mon texte n'était pas du tout coordonné avec...
Non? OK.
Alors là, c'était comme surprise. Moi-même, j'étais surprise ce matin de voir qu'il y avait un dossier par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'a fait un petit peu réagir, c'est cette semaine quand on a entendu que les syndiqués avaient une prime pour l'inflation. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est intéressant, une prime pour l'inflation. Pourquoi pas? Ça a été négocié dans leur convention. OK. Mais moi, j'ai mis ça en parallèle, justement, non seulement avec toutes les augmentations qui sont très substantielles, disons-le, que les employés de l'État, mais là, je parle vraiment tout employé confondu, que ce soit les fonctionnaires directement, les policiers de la SQ, les enseignants et ainsi de suite. Donc, des augmentations très substantielles, sans oublier nos élus qui se sont votés une augmentation de 30%. C'était en 2023, 7,5% en 2025. Sauf que quand on regarde les retraités du gouvernement, là encore, tout type de retraités confondus, quel que soit leur emploi initial, et là, j'ai réalisé que, en fait, ils se font manger la laine sur le dos, carrément. Pour moi, il y a comme une rupture dans le contrat social parce que ce qui est orchestré, qui est structurel, c'est-à-dire c'est écrit noir sur blanc dans par Retraite Québec, c'est qu'il y a une sous-indexation des fonds de pension. Okay. Sous-indexation systématique. Écoute, tu sais quoi, j'ai fouillé, ça semble être Pauline Marois, lors de son légendaire règne, qui a laissé ça en héritage. C'est-à-dire que toutes les années de cotisation entre 1982 et 99, c'est indexé uniquement si c'est plus que 3%, mais uniquement pour la portion supérieure à 3%. Si l'inflation est inférieure à 3%, l'indexation est égale à un gros zéro. Et pour la portion de cotisation de 99 à aujourd'hui, il y a une formule, disent-ils, la plus intéressante, soit que c'est la moitié de l'inflation ou l'inflation moins 3%. En d'autres termes, quelle que soit la façon dont on le prend...
On est perdant.
Mais pas rien qu'un peu, mais de façon vraiment substantielle. Ça veut dire que si on regarde depuis l'an 2000, combien d'années y a-t-il eu de l'inflation supérieure à 3%? 3 années. Et donc, uniquement pour ces 3 années-là, il y a eu une indexation et uniquement pour la portion supérieure aux 3%, c'est-à-dire s'il y avait eu 3,5% d'inflation, c'était 0,5% qu'ils auraient obtenu pour la cotisation de 82 et 99. Bref, en faisant un calcul rapide, si les retraités avaient vu leur pension indexée en fonction de l'inflation, leur pension aurait dû augmenter de 77%.
Ah, c'est fou.
C'est juste pour garder le même niveau de vie. Ils ne s'enrichissent pas. C'est juste pour pouvoir aller à l'épicerie et continuer à s'acheter la même chose, payer leur loyer et ainsi de suite. Or, avec leur formule savante de Retraite Québec, c'est une fraction une fraction de cette indexation-là qu'ils ont eue. Je n'ai pas pu la calculer parce que ça dépend de... c'est vraiment du cas par cas, à quel moment la personne elle a pris sa retraite et combien d'années de correspondent à la portion 82, 99 et ainsi de suite. Donc, mais chose certaine, même dans le meilleur des cas, c'est peut-être 40% que ça a été compensé. Certainement pas pour la totalité. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Donc, Pauline Marois aurait introduit ce gel, finalement, en quelque sorte, de l'indexation, au même moment où elle annonçait en grande pompe ses garderies à 5 $. Et moi, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas, d'un côté, avancer des programmes super, super dispendieux et le faire aux frais de qui ? Aux frais de ceux qui n'ont plus de voix, qui ne sont pas organisés, qui sont souvent isolés parce qu'ils ne se retrouvent plus sur le marché du travail ni quoi que ce soit. Des gens qui ont contribué, qui ont travaillé, qui ont fait confiance à leur employeur, qui était l'État, pour avoir des retraites qui étaient décentes. Et là, on réalise que quand on va fouiller un petit peu, ben, en fait, on les appauvrit. C'est un appauvrissement systématique, volontaire, d'une portion de la population.
Donc, est-ce que c'est pour ça que les syndicats décident de passer à la caisse? Les syndicats le savent, ça, ce que tu exposes ce matin. Est-ce que les syndicats, alors, se disent, OK, parfait, on le sait que la retraite, lorsqu'ils partiront, n'est pas indexée, mais c'est pour ça qu'on y va à fond la caisse et qu'on tente de vider les coffres en salaire pour augmenter au maximum la retraite? Parce qu'ils le savent qu'à l'échéance, les retraites ne sont pas indexées. Est-ce que c'est pour ça?
Écoute, moi, j'ai une autre théorie là-dessus. C'est que les employés actuels, c'est eux qui payent les cotisations. Le syndicat, c'est une business comme n'importe quel autre business qui doit satisfaire ses clients. Les retraités, ils ne payent plus les cotisations syndicales.
Donc, ils ne sont pas défendus?
Ils ne sont pas intéressants. Les syndicats, s'ils voulaient, ils pourraient très bien, de la même façon qu'ils ont négocié leur prime à l'inflation et ainsi de suite, de dire, on veut que les retraites soient indexées lorsque notre syndiqué actuel sortira du marché du travail. Ils pourraient très bien le demander s'ils le voulaient. Ils demandent mille et une choses, dans certains cas même farfelues. Pourquoi ne pas demander quelque chose de vraiment réel et concret? Surtout quand on sait que l'État québécois, en fait, l'État tout court, si on regarde tous les paliers confondus, ça embauche à peu près un travailleur sur 4, 25% de la population des travailleurs. Et les autres paliers s'ajustent souvent sur Retraite Québec pour dire, ah ben, ils le font comme ça, on va le faire comme ça. Donc non, si les syndicats voulaient, ils pourraient très bien dire, regardez, Madame Marois avait mis cette mesure-là à son époque, il n'y a pas de raison qu'on la maintienne ad vitam aeternam, enlevons-la. Et en fait, voilà, on a Mme Fréchette, je l'écoutais hier.
Moi, je vais vouloir ton opinion sur elle, ouais. Dans quelques instants.
Elle nous fait une jolie vidéo pour dire, oh, elle veut remettre de l'argent dans la poche des Québécois. Ben, je lui lance le défi à Mme Fréchette, indexez donc les pensions de retraite correctement.
Mais d'ailleurs, ça a l'air d'être le quoi qu'il en coûte, là, sa recette, parce que de tout temps, on n'avait pas d'argent pour Maisonneuve-Rosemont, on n'avait pas d'argent pour les projets d'hôpitaux ailleurs en province, paraît-il qu'il y aura des annonces prochainement. Hier, elle a décasqué 700 millions, qui n'existaient pas, que François Legault refusait de mettre sur la table. Grosse annonce hier, donc vraiment, c'est un 180 degrés. Donc, elle semble être dans le quoi qu'il en coûte. Il faut dire qu'on est dans un horizon électoral, Nathalie, tu le sais.
Ben oui.
Donc, comme par magie, le style change et la matière aussi.
Ben, tu vois, 700 millions, c'est le montant qu'elle a annoncé.
Donc, moi, ça va coûter 2 milliards.
Ah ben voilà, exactement. Moi, ce que j'ai entendu, c'est 2 milliards.
C'est ça.
Effectivement. Mais regarde, tu vois, ça ne me dérange pas qu'elle fasse ce genre d'annonce, mais à une condition. C'est parce que l'État n'a pas un problème de rentrée d'argent. Il a un problème de dépenses. Donc moi, je me dis, les hôpitaux, les écoles, les routes, l'État a dit, c'est ma job, je prends ça sous ma responsabilité, pas de problème. Mais à ce moment-là, coupe ailleurs. Il faut couper ailleurs, parce qu'on ne peut pas juste annoncer des augmentations.
Couper où? Nathalie.
Oh my God, écoute, donne-moi la job, je vais te trouver ou couper. Je suis certaine que ça va pas
manquer. Parce que là, on tombe dans le blabla. Faut d'abord couper la bureaucratie. Là. Ça, c'est la logorée usuelle. On coupe dans la bureaucratie. Ça veut rien dire et tout dire à la fois. La réglementation, on répète ça. C'est quoi, ça, couper dans la réglementation? On voit jamais l'effet de ça. Et je te dirais, depuis au moins les 30 dernières années, tous les gouvernements ont dit qu'il faut couper dans la bureaucratie. Mais il n'y a jamais rien qui a été fait pour couper dans la bureaucratie. Je te donne un exemple.
Et effectivement, d'ailleurs, l'embauche entre 2015 et 2025, là, je te dis ça de mémoire, mais je pense que je suis pas loin de la réalité. L'embauche entre 2015 et 2025, en 10 ans, la fonction publique a augmenté d'environ 30%, peut-être 25 à 30%. Il n'y a aucune raison que ça ait augmenté dans de telles proportions. Si ce n'est qu'il y a de la multiplication des jobs, le plus grand créateur d'emplois, mais on se demande quelle est l'utilité de ces emplois-là, c'est l'État. Regarde, couper où, moi je te dirais, première chose à faire, on va arrêter le BS corporatif. Parce que ça, c'est prendre l'argent aux travailleurs. Les catastrophes du style Norvolt et Lyon Électrique et ainsi de suite, je pense qu'on a, ça suffit.
Elle le fera pas, mais il faut le faire.
Ben, je pense qu'une chose qu'on devrait faire, quel que soit le gouvernement, et socialement, je pense que ça devrait être réclamé à haut cri, c'est de définir, une fois pour toutes, qu'on ait des états généraux, quel est le rôle de l'État. Quelle est la taille de son carré de sable à l'intérieur duquel il peut jouer. Et le délimiter de façon bien précise et s'assurer qu'il ne sort jamais de son carré de sable. Parce que là, ce qu'il fait en permanence, c'est exactement ça. Il a un rôle, mais il va jouer à l'extérieur de son domaine en prenant des millions, des centaines de millions, des fois des milliards, sur des lubies que certains politiciens ont parce qu'ils veulent laisser des
un
traces
héritage,
de leur nom.
C'est ça.
Ouais, c'est ça, un héritage pas toujours très glorieux. Moi, je pense qu'il faudrait revenir à l'essentiel et se dire, il faut... De la même façon, regarde, toi puis moi et n'importe lequel de nos auditeurs, si il est en déficit, hein, il manque de l'argent à la fin du mois, il va se dire, ok, je coupe où exactement? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel?
Le restaurant, le cinéma, matchs de hockey...
Voilà.
Puis le voyage qu'on devait faire, mais qu'on n'a pas payé encore, qu'on songeait à faire, on reporte le projet.
Voilà. Alors, on va éliminer ce qu'on considère que c'est pas ni urgent ni essentiel, mais on va dire, faut payer l'hypothèque ou, je sais pas, faut isoler le
toit. Les coûts fixes, t'as pas le choix. Paiement de char, l'épicerie, l'hypothèque, la lumière, le chauffage... Puis le cellulaire, parce que ça te prend ça, quand même.
Voilà. Alors, on revient à l'essentiel. Je pense qu'il faudrait que... Et moi, je voterai avec enthousiasme pour le parti qui dirait « Votez pour moi, on fait des états généraux sur quel est le rôle de l'État. On fait un périmètre, et tout ce qui est à l'extérieur de ce périmètre-là, on abolit. »
Les syndicats voudront être autour de la table, Nathalie, parce que... Ce sont des partenaires. Ils aiment ça dire ça, hein? On est des partenaires.
Ouais, mais moi aussi, je suis partenaire.
Hein? C'est ça.
Et tous les contribuables aussi le sont.
Absolument.
Et on est, je pense, les partenaires aux premières loges. Et c'est dans ce sens-là où je me dis... Parce que le modèle dans lequel on est, on est en train de pelleter par en avant, on est d'accord avec ça, mais il est sur le point de s'effondrer. Ça ne peut pas fonctionner indéfiniment. Il va falloir un moment se dire, on ne peut pas taxer davantage les gens. Et d'ailleurs, ça m'a fait rigoler de voir... J'ai vu ça passer... son nom m'échappe. Voyons, comment il s'appelle?
Jeanne Sillet, Québec... Radio-Canada?
Québec solidaire...
Françoise David.
Françoise David, voilà, oui. C'est ça.
Elle a publié un livre, là.
Voilà, pour dire que le tabou de taxer les riches. Ben voyons donc, il est où le tabou de taxer les riches?
On est taxé pas pire. Ceux qui font du cash un peu, là, on passe à go. Beaucoup.
Exactement. Elle semble oublier que quand on arrive en haut de l'échelle de taxation, c'est 53,5% du revenu marginal qui s'en va à l'impôt. 53%. Ça veut dire que tu fais 1 000 $ de plus, tu en donnes 530 au gouvernement. Il t'en reste.
Il nous en reste moins que ce qu'on donne.
Mais attends, mais c'est bien pire que ça. Bien pire que ça. Il t'en reste 470. Mais après ça, tu décides d'aller t'acheter, je sais pas, une télévision avec ton 470.
Bang, bang, bang. Éco-frais, en plus. Hein?
Éco-frais, TPS, TVQ. Donc, enlève un autre 15%, 15,5%, 16% sur ton 470. Dans le fond, ton pouvoir d'achat, il est dans les 300$ sur ton 1000$ que tu as travaillé pour le générer. Alors, quand on me dit, oh ben, c'est un tabou de parler de taxer les riches, je ne sais pas dans quelle planète elle vit, mais dans la planète Nathalie, ou dans le Québec de Nathalie, de taxer les riches, on fait ça en permanence.
Oui, absolument.
Et c'est.
Absolument. Merci beaucoup, Nathalie. C'est déjà
merci,
la fin.
Merci, Dominique, pour le micro.
Hein? On s'amuse, mais
toujours.
On reprend ça vendredi, absolument. C'était un grand plaisir, Nathalie. Merci encore.
Merci, Dominique. À bientôt.
Bye-bye. Et les gens l'apprécient beaucoup. Retourne à Nathalie.
Ben oui.
Elle a dit le Québec de Nathalie. J'aime ça. J'aimerais ça être dans le Québec de Nathalie.
Ben moi aussi. C'est le Québec de Nathalie qu'on veut.
Avec Éric Duhem, peut-être. Oui. Hein? Il me semble que ça fit les deux.
Ben ça fit, mais je suis pas sûr que...
Je préfère un rapprochement, là, quelque chose. Hein? Colique. Ouais.